Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Maïlys André, mais aussi Mélanie Chalandon, Samuel Bernard, Marguerite Caton, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Kevin Boisseau. Suite de notre série consacrée aux droits humains, alors que l'on fêtait lundi les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, après avoir fait un bilan de 7 décennies d'action des instances internationales en matière de promotion et de protection des droits humains, après avoir parlé du pacte mondial de Marrakech et du droit à l'immigration, place aux droits économiques et sociaux. Lutte contre la pauvreté, la mère de toutes les batailles, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
For 70 years,
durant 70 ans, la Déclaration universelle des droits de l'homme a rayonné comme un phare dans le monde, mettant en lumière la dignité, l'égalité et le bien-être, et suscitant de l'espoir dans les lieux les plus sombres. Les droits proclamés dans la Déclaration s'appliquent à tous, indépendamment de la race, des croyances, du lieu géographique ou de toute autre distinction quelle qu'elle soit. Les droits de l'homme sont universels et éternels. Ils sont également indivisibles. On ne peut pas choisir un droit au détriment de l'autre parmi les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Nous honorons donc aujourd'hui les défenseurs des droits de l'homme qui risquent leur vie pour protéger leurs semblables face à la montée de la haine, du racisme, de l'intolérance et de la répression. Les droits de l'homme sont assaillis de toutes parts. Les valeurs universelles se délitent. L'état de droit est en recul. Aujourd'hui, plus que jamais, il nous appartient clairement et collectivement de défendre les droits de l'homme pour chacun, partout dans le monde.
Message du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, à l'occasion du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Dès 1948, dans cette Déclaration universelle, il n'est pas seulement question de droits politiques et civiques, mais aussi de droits économiques et sociaux. Plus tard, en décembre 66, un nouveau traité adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies va détailler les engagements en la matière. Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui requiert des États parties qu'ils agissent en vue d'assurer le plein exercice des droits économiques, sociaux et culturels, dont le droit au travail, la santé, l'éducation, un niveau de vie suffisant. Mais ces droits économiques, sociaux, culturels sont-ils suffisamment défendus? Ne sont-ils pas les grands oubliés de nos gouvernants, des institutions supranationales comme des ONG, alors même qu'ils apparaissent comme une condition à la réalisation et à la jouissance de tous les autres, notamment civiques et politiques? La lutte contre la pauvreté et les inégalités ne devrait-elle pas être la priorité du combat pour les droits de l'homme? Une question sur laquelle nous allons nous pencher ce matin avec deux invités. D'abord, Senabou Benga, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes juriste spécialiste en droits humains, directrice de Human Dignity, qui est une ONG française de promotion et de défense des droits économiques, sociaux et culturels, et en particulier en Afrique subsaharienne. Et puis vous êtes ancienne consultante en droits de l'homme et juge à la Cour nationale du droit d'asile en France. Merci d'être avec nous. François Bourguignon, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes, vous, économiste, professeur émérite à l'École d'économie de Paris, et puis ancien vice-président de la Banque mondiale entre 2003 et 2007. Vous aviez écrit en 2012 au Seuil « La mondialisation de l'inégalité ». D'abord, est-ce que vous êtes d'accord l'un et l'autre pour dire que les droits économiques, sociaux et culturels, qu'on appelle les DESC dans le jargon onusien, on détaillera pour voir un peu ce qu'il y a derrière, mais sont un peu les grands oubliés de nos États, de nos institutions supranationales et peut-être même de nos ONG, en tout cas qui ne sont pas considérés à hauteur de ce qu'ils représentent en termes d'enjeux, d'impact aussi sur les autres droits et notamment sur les droits politiques et civils. Senabou Benga.
Ah oui, tout à fait, absolument. Les droits économiques, sociaux et culturels restent négligés. Ils sont méconnus, ils sont invisibles en quelque sorte, puisque quand on en parle, et on rentrera dans le détail, je l'espère, un peu plus longuement, on oublie souvent de cette terminologie juridique. On parle de la santé, on oublie que c'est un droit. On parle du travail, on oublie que c'est un droit. Donc oui, je suis tout à fait d'accord.
François Bourguignon, pourquoi ces droits économiques, sociaux et culturels ne sont pas considérés à hauteur des enjeux qu'ils représentent et de l'impact qu'ils ont sur tous les autres droits? D'où vient cette forme de découplage des droits humains dans leur représentation, dans leur promotion, dans leur protection, avec d'un côté des droits politiques et civiques, et puis de l'autre ces fameux DESC? Et à quand ça remonte, ça?
Je crois que la raison est purement et simplement économique. C'est-à-dire que c'est difficile de garantir, quand on est dans un pays pauvre, de garantir à chacun un niveau de vie, décent est en plus pas clair. Quelle est la définition d'un niveau de vie décent? C'est pas évident de garantir à chacun un emploi décent, pour reprendre l'expression de l'Organisation internationale du travail. Il y a des capacités qui sont nécessaires, une accumulation d'équipements, de moyens, de ressources économiques qui font que c'est difficile de satisfaire ces droits. Donc les droits peuvent exister. Il est évident que c'est l'objectif de toutes les stratégies de développement, qu'elles soient nationales, internationales. Mais effectivement, on est obligé de constater que c'est très lent. La pauvreté a diminué dans le monde. On aurait voulu qu'elle diminue beaucoup plus rapidement. Et quand je dis que la pauvreté diminue, c'est la pauvreté extrême qui diminue. Je pense qu'on ne sera pas satisfait lorsque la pauvreté telle qu'elle est définie par les Nations Unies, par la Banque mondiale ou par d'autres, sera éradiquée. On dira non, n'exagérons pas, on ne vit pas avec 1 euro ou 1 dollar et 90 centimes par personne et par jour. On peut pas vivre avec ça. Donc je crois que le problème essentiel, c'est celui-là.
On reviendra évidemment sur cette question de lutte contre la pauvreté et l'extrême pauvreté. Vous avez déjà souligné, et on y reviendra, ce problème définitionnel sur lequel il va falloir revenir. Vous avez évoqué cette question des capacités, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on raisonne en termes de capacités, mais on va y revenir. D'abord, Senabou Benga, est-ce qu'on peut faire un peu un travail de définition, justement, sur ce qu'on appelle les droits économiques, sociaux et culturels? Vous avez fait une fiche d'information extrêmement éclairante sur ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi on parle et quelle place on leur accorde en 1948, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme?
Oui, alors écoutez, les droits économiques, sociaux et culturels sont les droits fondamentaux qui nous permettent de vivre dignement au quotidien. Ce sont les droits que nous utilisons au quotidien. La santé, l'éducation, le travail, l'eau, l'assainissement, le logement, la vie culturelle, la vie familiale. Donc c'est un ensemble de droits que nous utilisons tous les jours. Le droit au travail, le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à l'alimentation, ce sont des droits fondamentaux.
Donc décrits dans la Déclaration universelle des droits de
l'homme. Décrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Dans une deuxième partie plutôt, hein. D'abord, c'est plutôt les droits politiques et civiques, et puis ensuite, on a les droits économiques et sociaux.
Dans une deuxième partie, effectivement, et en même temps, la Déclaration universelle des droits de l'homme consacre les droits économiques, sociaux et culturels et les droits civils et politiques, sans distinction. Donc, nous avons un texte en 1948 qui ne fait pas de distinction entre ce qu'on appelle souvent les deux catégories de droits, et qui nous rappelle qu'ils sont indivisibles et interdépendants. L'ordre dans lequel, effectivement, ils sont inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme ne doit pas forcément nous amener à penser que
qu'ils
les
sont
droits...
secondaires.
Exactement, exactement.
Une fois cette définition posée, François Bourguignon, essayons de voir les outils qu'on a à notre disposition pour en faire la promotion et la protection. Le premier outil international concernant ces droits économiques, sociaux et culturels, c'est, je le disais un peu dans mon introduction, c'est le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 1966. Vous pouvez nous rappeler, il faut faire un peu d'histoire, hein, revenir un peu en arrière, nous dire ce qu'il prévoyait, et peut-être en particulier ce qu'il, comment il encourageait finalement les États signataires dans la promotion et la protection de ces droits.
Non, je crois que c'est cette déclaration et qui ensuite a été suivie par d'autres déclarations, la déclaration sur le droit au développement économique, et puis je pense que probablement le plus important dans la période récente, c'est la déclaration du millénaire.
On va y revenir, évidemment.
Unies, et tout ça est une continuité. Donc, 66, c'était cette déclaration sur la nécessité du développement économique et la nécessité pour la communauté internationale, très rapidement, d'aider à la réalisation de ces droits.
Mais est-ce qu'on met en place des mécanismes de surveillance, de contrôle des engagements pris, ou est-ce que, comme souvent, c'est purement déclaratif et finalement on s'arrête là?
J'ai peur que ce soit plutôt des vœux pieux, mais peut-être que je ne connais pas en détail les arcanes des Nations Unies.
Senabou Benga.
Alors, il existe un comité au niveau des Nations Unies, le comité des droits économiques, sociaux et culturels, qui a été créé en 1985. Contrairement au comité des droits de l'homme, qui est censé surveiller la mise en œuvre du pacte international relatif aux droits civils et politiques, politique qui, lui, a été créé dès 1976. Donc déjà, on voit une petite différence, mais il existe effectivement un organe au niveau international qui est chargé de la surveillance du pacte, donc du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, dans les pays qui l'ont ratifié ou qui ont accédé à ce pacte.
Et comment ça fonctionne ? Il y a quoi ? Un système d'évaluation et...
Alors, un système de rapportage périodique.
Oui.
Tous les 4 ans, le comité des droits économiques, sociaux et culturels demande aux États de rendre un rapport sur les mesures qui ont été prises pour mettre en œuvre tous ces droits économiques, sociaux et culturels. Certains États sont très en retard dans le transfert, la transmission de ces rapports. C'est le cas, par exemple, de la Côte d'Ivoire, qui n'a pas encore soumis de rapport. D'autres, comme la France, l'ont soumis à plusieurs reprises. Donc, périodiquement, le comité examine à Genève, c'est un comité composé de 18 experts indépendants, examine les mesures prises par les États parties au pacte par rapport aux droits économiques, sociaux et culturels.
François Bourguignon, depuis 15-20 ans, il y a quand même un effort réel qui a été fait pour promouvoir peut-être davantage ces droits économiques, sociaux et culturels. Et on l'a vu très clairement, de façon particulièrement notable, en 2000, avec les objectifs du millénaire. Alors, d'abord, comment comprendre qu'à ce moment-là, il y a une forme de prise de conscience, qu'il y a effectivement urgence à remettre en avant, sur le devant de la scène, ces droits? Et puis, la question qui se pose, c'est celle du bilan. Quel bilan est-ce qu'on peut tirer de tout cela ? Est-ce que les efforts ont payé ?
Je crois que d'abord, pour replacer la déclaration du millénaire dans son contexte, je crois qu'il est très important de voir que en 1990, à la fin de la guerre froide, il y a une modification radicale qui s'opère dans l'esprit des gens qui interviennent dans la communauté internationale en matière de développement. En particulier, on constate qu'à partir de 90, l'aide au développement qui est fournie par les pays avancés s'écroule, littéralement. Pourquoi ? Simplement parce que l'intérêt géopolitique de l'aide au développement disparaît. Et là, on réalise que d'une certaine façon, l'aide au développement qui avait été mise en avant comme étant l'un des instruments qui permettrait de se rapprocher des droits économiques, cette aide au développement était utilisée à des fins qui étaient politiques, de capturer une partie des pays en développement, de les mettre dans le camp occidental, ou plutôt dans l'autre camp.
Donc face à ce constat, d'une certaine manière, on se dit il faut remettre les choses sur la table, réorganiser les choses, parce qu'il y a une forme de dépolitisation à l'été de l'aide au développement, c'est ça ?
Complètement. Alors, ouais. La déclaration du millénaire vient à un moment où l'aide est tellement faible que un certain nombre d'acteurs décident qu'il faut absolument mobiliser de nouveau les énergies dans cette perspective-là. Et je pense que la déclaration du millénaire et les objectifs du millénaire ont été un véritable succès, dans la mesure où l'aide au développement a remonté de façon très claire et très nette, dans la mesure où, peut-être pour la première fois, des objectifs chiffrés ont été mis sur la table. Et en particulier l'objectif numéro 1 du millénaire, qui était de diminuer la pauvreté de moitié, en prenant comme référence 1990 et l'horizon 2015.
Ça a fonctionné de ce point de vue-là. On a tenu l'objectif.
Maintenant, il y a quelque chose d'un tout petit peu hypocrite quand on dit ça, parce que la raison pour laquelle on a tenu l'objectif tient énormément à ce qui s'est passé dans un seul pays du monde.
La Chine.
Qui est la Chine.
Évidemment. Et quand vous avez une formidable croissance comme la Chine l'a connue dans les années 90 et en particulier 2000, évidemment, c'est toujours plus facile de lutter contre l'extrême pauvreté. Mais dans quelle mesure est-ce que c'est le résultat précisément de l'action menée par les Nations Unies ? Ça, c'est une vraie question. Est-ce que vous êtes aussi dithyrambique que François Bourguignon s'agissant de ce succès des objectifs du millénaire, Senabou Benga ? Ou est-ce que là aussi, peut-être pour des raisons aussi, en tout cas quand on fait une analyse géographique de la chose, on peut peut-être nuancer les choses.
Alors Senabou nuancer Benga, les choses,
si on regarde par exemple l'Afrique au hasard.
Nuancer les choses, oui, puisque ce qui me dérange personnellement, et bien entendu, il y a eu des succès par rapport à ces objectifs et aux objectifs actuels, les objectifs du développement durable. Simplement, on oublie les obligations juridiques. On parle d'objectifs et on ne parle plus d'obligations. Ça ne veut pas dire que l'un peut aller avec l'autre. Simplement, il faut bien distinguer les deux choses. Un objectif n'est pas une obligation. Donc je me demande dans quelle mesure est-ce qu'on n'est pas en train de repolitiser justement ces droits économiques, sociaux et culturels, mais de manière plus générale les droits humains, en demandant aux États d'atteindre un objectif, alors que de toute manière, ils ont déjà des obligations. Puisque quand on parle des objectifs du développement durable aujourd'hui, on oublie que la plupart des objectifs sont déjà codifiés en droit international.
Et les objectifs du développement durable, pour les auditeurs, parce que c'est pas toujours facile de s'y retrouver, c'est ceux qui vont être mis en place en 2015 à la suite justement des objectifs du millénaire. On va y revenir. Voilà, parenthèse fermée, je vous en prie.
D'accord. Donc ce que je voulais dire, c'est que les objectifs du développement durable, les objectifs du millénaire, c'est une initiative louable. Les choses fonctionnent. Simplement, elles existaient déjà. Ces objectifs existaient déjà. Ces objectifs existaient déjà en tant qu'obligation juridique pour les États parties aux différents pactes. Et surtout, les objectifs du développement durable ne sont qu'une partie de ces obligations. Donc oui, un succès et en même temps peut-être au détriment des obligations juridiques des États.
François Bourguignon, vous voulez réagir, je vous en prie.
Oui, mais non, je ne nie pas la distinction objectif-obligation. Les obligations existaient. Je crois que le gros intérêt des objectifs en tant que tels, ça a été de quantifier un certain nombre d'obligations. Les obligations n'étaient pas quantifiées. Ok, vous avez l'obligation d'assurer des conditions de vie décentes à vos citoyens. Vous êtes dans l'obligation d'offrir des emplois décents à vos citoyens. Mais quel était l'objectif ? Rien n'était spécifié. Ce qui était l'intérêt des objectifs du millénaire, puis des objectifs du développement durable, c'est le fait qu'on a donné une valeur à l'obligation, si vous voulez. Si vous voulez le considérer comme une obligation, je suis tout à fait d'accord. Mais la grande différence, c'est que soudainement, on a dit, voilà, ça n'est pas acceptable de ne pas avoir 100% des enfants qui sont scolarisés. Et effectivement, il y a eu un énorme progrès qui a été fait. Maintenant, on peut discuter si cette scolarisation est bien faite ou mal faite, etc. Mais c'est vrai qu'il y a eu un très gros effort. Et je crois que l'intérêt des objectifs par rapport aux obligations, ça a peut-être été de quantifier les obligations.
Il y a une chose qu'on peut noter. Alors effectivement, quantifier les obligations, et c'est là qu'on peut dire que sur l'extrême pauvreté, il y a eu de réelles avancées. On est passé de 1,9 milliard de personnes en 1990 qui étaient dans l'extrême pauvreté à seulement, si je puis dire, 830 millions en 2015.
On est en dessous de ça maintenant.
On est en dessous de ça, mais en 2015, c'était ça. Donc, on voit que les efforts ont été réels et que les effets ont été réels. Mais ça, c'est pour l'extrême pauvreté. Qu'en est-il de la pauvreté tout court ? Si on regarde la période 2000-2015, donc début des objectifs du millénaire, fin des objectifs du millénaire, est-ce qu'on peut dire que le monde était globalement moins pauvre ? Qui s'y colle ? Senabou Benga.
Alors, c'est une question assez difficile. Est-ce que le monde était globalement moins pauvre ? J'en doute. Est-ce que les richesses étaient mieux réparties ? J'en doute. Est-ce que les États prenaient toutes les mesures nécessaires ? Puisque quand on parle des objectifs du développement durable et quand on parle de la réduction de la pauvreté, il faut penser que derrière les droits économiques, sociaux et culturels se cachent donc ces obligations d'agir, de prendre des mesures pour garantir les droits économiques, sociaux et culturels de manière progressive, je ne suis pas sûre, enfin, pour répondre à votre question.
François Bourguignon, c'est un vrai problème, ça, parce qu'effectivement, on peut se réjouir de voir l'extrême pauvreté reculer. On peut se réjouir, par ailleurs, sur cette période 2000-2015, de l'émergence de classes moyennes dans un certain nombre de pays émergents. Ça, c'est une réalité aussi. Mais Senabou Benga parlait de redistribution. Est-ce qu'effectivement, on a amélioré les choses sur la question de la redistribution des richesses ? Là, la réponse est évidemment non, François Bourguignon.
Non, je suis pas d'accord.
Ah ben, alors allons-y.
Je suis pas d'accord. Ça dépend de la façon dont vous regardez la redistribution. Si on essaye de prendre la redistribution ou l'évolution de l'inégalité au niveau mondial, donc on considère le monde comme les habitants du monde, qu'ils soient américains, maliens ou chinois, comme étant absolument des citoyens identiques du monde. Qu'est-ce qui s'est passé depuis les années 2000? Bien, l'inégalité entre les citoyens du monde a diminué. Il n'y a aucun doute là-dessus. Elle a diminué, elle avait commencé à diminuer dans les années 90, en particulier à cause de la Chine. Les années 2000 ont été très particulières dans la mesure où il y a eu une accélération de la croissance dans les pays africains, dans les pays latino-américains, en partie liée à l'envol des prix des matières premières. Et effectivement, on a constaté que au niveau mondial, il y a une diminution des inégalités. Maintenant,
diminution des inégalités, je suis pas sûr. Effectivement, tout le monde s'est un peu enrichi. Effectivement, il y a une période de croissance très importante, donc tout le monde en a profité, que ce soit les classes les plus défavorisées, les classes moyennes et les autres. Mais le fossé entre les plus pauvres et les plus riches s'est accru.
Alors, bon, ça dépend comment vous définissez le fossé. Je peux vous dire que si vous prenez le revenu moyen ou le niveau de vie moyen des 10% les plus pauvres dans le monde et le niveau de vie moyen des 10% les plus riches, celui-là, ça a diminué. Alors maintenant, vous pouvez aussi raisonner en termes de pays et dire maintenant quels sont les pays qui sont tout en bas dans le classement par niveau de revenu. Alors effectivement, il y a cette différence-là entre les pays les plus riches, mettons le Luxembourg, et peut-être les pays les plus pauvres, mettons la Somalie ou un pays de ce type-là. Il est tout à fait possible, il est à une époque, j'ai pas regardé récemment, à une époque, c'est vrai que cet écart avait augmenté. Mais il faut voir qu'est-ce qu'on veut regarder. On veut regarder un pays, une unité, ou est-ce qu'on veut pondérer les pays par les populations? Quand on fait ça, les choses sont différentes. Alors, j'ai parlé tout à l'heure d'hypocrisie, donc ne dites pas que je considère que les OMG, les objectifs du millénaire et les objectifs de développement durable ont été un succès retentissant. Le point sur lequel je voudrais insister, c'est le suivant. Je pensais que vous alliez dire, oui, mais dans les pays, l'inégalité augmente. Ce qui est tout à fait probable dans certains pays, pas tous. Il y a beaucoup de... Si vous prenez l'Amérique latine, par exemple, on observe depuis un peu plus de 15 ans, on observe une diminution des inégalités. En partie, d'ailleurs, liée aux programmes sociaux qu'on connaît bien, qui avaient été lancés par Lula au Brésil, par un autre président au Mexique.
Mais François Bourguignon... Je suis bien sûr, vous avez raison. Il y a eu ces efforts-là, la Bolsa Familia, etc., qui a permis à des millions de Brésiliens de sortir de la pauvreté. Mais quid de la répartition des richesses? Qu'en est-il? Si vous regardez par exemple le Brésil, l'outil principal pour répartir la richesse dans n'importe quel pays, l'outil fiscal, c'est l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu au Brésil, c'est 27,5% pour la tranche la plus haute. Où vous voyez de la redistribution?
Non, mais attendez, il faut regarder les choses en niveau et en évolution. En évolution, de nouveau, si on prend le cas brésilien, il y a une égalisation qui se fait en bas de la distribution. Il y a peut-être une inégalisation qui se réalise en haut de la distribution. Et maintenant, comment est-ce qu'on va pondérer l'un vis-à-vis de l'autre? Donc, asséner systématiquement que les inégalités augmentent partout, quoi qu'il arrive et où que ce soit... C'est une erreur, je suis désolé. Quand on essaie d'analyser les choses en profondeur, j'ai essayé de faire ça pendant un très grand nombre d'années dans ma vie, les choses ne sont pas aussi simples que ça.
Je vous donne la parole, Senabou Benga, sur cette question des inégalités et la redistribution des richesses. Et puis, il va falloir revenir sur un point que vous évoquiez, parce que vous... Bon, évidemment, il faut, pour pouvoir analyser tout ça, il faut avoir des outils d'évaluation. On parle de pauvreté depuis tout à l'heure, vous avez parlé de revenus, mais de plus en plus, on parle de capabilities, de capacités. Donc, il va falloir voir justement ce que ça nous dit de l'évolution de nos représentations de cette question de la pauvreté. Mais Senabou Benga.
Écoutez, effectivement, les inégalités, comme vous le dites très bien, Monsieur Bourguignon, il y a eu une évolution positive. Et j'ai envie de vous dire, heureusement, heureusement. Ceci étant dit, ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que ce n'est pas suffisant. On peut toujours avancer. Donc la question n'est pas de savoir s'il y a eu une évolution ou pas. Elle est là, on la constate tous. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble pour améliorer cette redistribution des richesses, pour améliorer le quotidien de chacun et chacune? Parce que vous parlez de cette réduction des inégalités, en même temps, quelle est la perception des populations et des individus par rapport justement à cette réduction des inégalités? Je ne suis pas sûre, je ne suis pas une spécialiste dans le domaine, que les populations... perçoivent cette réduction des inégalités.
Donc, l'actualité, évidemment, des Gilets jaunes nous permet assez largement d'illustrer ce propos.
Et c'est là que les droits économiques, sociaux et culturels interviennent et doivent être, en fait, la base et la fondation de toute politique publique par rapport à la lutte contre la pauvreté.
Bon, je suis d'accord que je n'ai pas dit qu'il fallait s'arrêter là. J'ai dit simplement
oui,
que quand je regarde l'évolution, je dis qu'elle n'est pas négative. Bon, la dynamique va dans le bon sens.
Oui.
Alors, il n'est pas question de s'arrêter là, certainement pas.
Oui, oui.
Et justement, je pensais peut-être un tout petit peu plus tard dire que je suis très inquiet, en fait, à propos de l'avenir.
Alors.
Donc, premier point. Maintenant, le deuxième point sur la distinction entre perception et mesure est une distinction qui est difficile. Parce que, j'ai dit tout à l'heure que les obligations avaient pu se transformer en objectifs quantifiés, que c'était probablement l'intérêt principal de passer aux objectifs. À partir du moment où on a quelque chose de quantifié, il se peut très bien que les perceptions ne correspondent pas à ça. Et on sait très bien que les perceptions, elles ont quelque chose de tout à fait subjectif. Encore une fois, quand on parle des gilets jaunes en ce moment en France, on est tout à fait dans cette optique-là. Donc il faut qu'on ait, d'une certaine façon, des critères qui soient clair, qui soit neutre et qui ne dépendent pas de la façon dont les gens voient les choses. C'est ce qu'on a essayé de faire, mais encore une fois, ne pensez pas que je sois complètement optimiste. Je vais simplement vous donner un exemple sur les problèmes d'évaluation. Si je prends l'Afrique aujourd'hui, la pauvreté en Afrique, en termes de pourcentage, a diminué. En termes de nombre de gens, elle a légèrement augmenté, en tout cas, elle n'a pas diminué. Donc, vous voyez, vous pouvez dire, on n'a rien gagné puisque le nombre de pauvres en Afrique reste à peu près le même. Oui, mais en même temps, on est arrivé à absorber, à éliminer, à éviter la pauvreté à une grande partie de la population qui est arrivée à cause de la croissance démographique très rapide de l'Afrique. Mais vous voyez que uniquement en prenant le nombre de pauvres, la proportion de pauvres, on a des visions qui sont différentes. Laquelle est la meilleure ? Je pense que quand les objectifs du millénaire ont été définis, les responsables avaient en tête la proportion de pauvres.
Alors, 2015, les objectifs du millénaire, justement, arrivent à leur terme. Et donc, l'Assemblée générale des Nations unies met en place un nouvel agenda pour le déploiement de nouveaux objectifs, dits les objectifs de développement durable. Je propose d'écouter Ban Ki-moon à l'époque.
Les gens du monde entier se sont mobilisés en faveur des objectifs du millénaire pour le développement, la campagne contre la pauvreté la plus réussie de l'histoire. Nous devons terminer ce que nous avons commencé et relever ensemble de nouveaux défis relatifs au développement. Les Nations Unies ont entamé un dialogue avec des centaines de milliers de personnes dans le cadre d'une consultation globale. C'est un effort historique pour un processus historique d'élaboration de politique.
Voilà, Ban Ki-moon, donc au moment où on met en place ces objectifs du développement durable, en quoi, Senabu Benga, est-ce que ces objectifs du développement durable se démarquent peut-être des objectifs du millénaire de la quinzaine précédente? Est-ce qu'on est dans une continuité parfaite? Est-ce qu'on a une forme de rupture et donc une nouvelle manière d'appréhender le développement, la lutte contre la pauvreté et peut-être une nouvelle manière aussi d'appréhender ces droits économiques, sociaux et culturels?
Il y a une distinction, effectivement, dans la mesure où les objectifs de développement durable font une place aux droits économiques, sociaux et culturels et font une place aux droits humains dans la formulation. Ceci étant dit, tous les objectifs du développement durable à l'heure actuelle, n'incluent qu'une partie des droits économiques, sociaux et culturels et donc qu'une partie de ces obligations juridiques des États. Monsieur Bourguignon nous parlait tout à l'heure d'effectivement d'une chose très importante, les objectifs ont permis de quantifier et en même temps les objectifs du développement durable ne recoupent pas le contenu normatif complet, exhaustif de chacun de ces droits.
Qu'est-ce qui vous semble manquer ?
La réalisation progressive, les voies de recours. Et puis tout simplement la définition. Quand vous parlez de lutte contre la pauvreté, de mettre les gens à l'abri de la faim, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Si on parle de la faim, on parle du droit à l'alimentation. Le droit à l'alimentation est un droit vaste. C'est l'obligation qu'a un État parti au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de prendre toutes les mesures nécessaires au maximum de ses ressources pour garantir une alimentation de qualité aux citoyens. Donc, est-ce que l'objectif d'être à l'abri de la faim recoupe effectivement l'obligation juridique qu'est le droit à l'alimentation ? Pas tout à fait.
Je rappelle peut-être les 8 grands objectifs de ces objectifs dits donc du développement durable: réduire l'extrême pauvreté et la faim, assurer l'éducation primaire pour tous, promouvoir l'égalité et l'autonomisation des femmes, réduire la mortalité infantile, améliorer la santé maternelle, combattre les maladies, assurer un environnement humain durable et mettre en place un partenariat mondial pour le développement. La question du développement, justement, François Bourguignon, en 2015, vous aviez fait une tribune dans Les Échos dans laquelle vous expliquiez que le monde n'avait pas ou plus de stratégie de développement. C'était justement au moment de la mise en place de ces nouveaux objectifs. Qu'est-ce qui vous semblait manquer pour le coup? Vous avez tout à l'heure plutôt défendu ces objectifs. Là, vous les avez attaqués à l'époque.
Non, je pense que le monde n'a pas de stratégie de développement dans la mesure où on n'a pas l'objectif du développement, malgré les promesses des objectifs du développement durable, sont beaucoup moins mises en avant dans les discours que l'on peut entendre que ça n'a été le cas dans les années 2000. C'est vrai que de la même façon que on avait assisté à un désintérêt progressif pour les questions de développement dans les années 90, la crise financière de 2008 a définitivement diminué l'intérêt ou concentration des énergies mondiales sur la question du développement.
C'était moins prioritaire. Mais est-ce que c'est la seule question, Senabou Benga? Parce que ces dernières années, il y a aussi beaucoup de débats autour de la question de l'efficacité des programmes d'aide au développement. Il y a certains qui considéraient même que ça pouvait être tout à fait contre-productif et même constituer un frein au développement. On se souvient par exemple de la thèse de cet économiste américain William Easterly qui avait publié un ouvrage fameux au milieu des années 2000, Le fardeau de l'homme blanc. Est-ce que vous aussi, vous pensez qu'on a rencontré une crise des programmes, en tout cas dans que certains ont même pu être parfois contre-productifs? Et est-ce que ce temps est derrière nous? Je veux dire, est-ce que on a tiré les leçons de tout ça? Et est-ce qu'aujourd'hui, on a remis les choses à plat et on est en capacité de mesurer l'efficacité d'un programme de développement et donc de développer de bons outils?
Je ne pense pas, dans la mesure où développer de bons outils, et je reviens toujours aux droits humains, implique de mettre au centre de ces politiques de développement les droits humains et les droits économiques, sociaux et culturels. Les droits humains doivent constituer la base de ces politiques de développement. Je ne pense pas que ce soit le cas. Pour le moment, on reste un petit peu dans des discours très politiques, très politisés sur voilà, on va essayer d'évaluer ce qui s'est passé et de corriger nos stratégies d'aide au développement. Sans les droits humains, sans une place forte faite aux droits humains, on ne pourra pas y arriver. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément, à mon sens, de vraies remises en question, de vraies prises de recul et prises de distance par rapport à ce qui a été fait et ce qui devrait être fait par rapport justement à la place des droits humains de manière générale. Mmh.
François Bourguignon, même question. Il y a par exemple, je citais cet économiste américain, mais il y a aussi une économiste française, à savoir Esther Duflo, hein, du Massachusetts Institute of Technology, qui s'est beaucoup penchée sur cette question de la lutte contre la pauvreté. Elle avait notamment écrit un livre fameux, Repenser la pauvreté, qui était paru au Seuil à quelques années, dans lequel elle écrivait qu'il n'y avait pas d'impossibilité de lutter contre la pauvreté, mais qu'il fallait absolument remettre à plat nos politiques de développement. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, que 6 ans après, on a remis les choses à plat, qu'on a repensé justement tout cela et que le monde de l'aide au développement a changé?
Malheureusement, je ne pense pas. Et je crois effectivement qu'il y a un problème majeur d'efficacité de l'aide au développement. Je suis pas complètement d'accord avec les thèses d'Esther Duflo, mais c'est vrai que il y a un problème d'efficacité. Et dans une certaine mesure, le problème vient du fait que l'aide au développement est un accord entre souverains, entre pays souverains. Et donc l'aide au développement, elle est attribuée par des bailleurs de fonds, que ce soit des pays avancés, que ce soit des organismes internationaux, à des gouvernements dans les pays bénéficiaires de l'aide. Maintenant, on ne contrôle pas les gouvernements de ces pays. Il y a un principe de souveraineté qui existe, qui fait que c'est très difficile de dire à un gouvernement « voilà la façon dont on veut que vous utilisiez l'aide ». On a essayé de faire ça à une époque, ça s'appelait la conditionnalité de l'aide au développement, et on s'est rendu compte que ça marchait pas très très bien, parce que c'est toujours difficile de contrôler de façon extrêmement étroite la façon dont l'aide va être utilisée. Donc c'est vrai que il y a des pays dans lesquels l'aide fonctionne bien parce que les gouvernements où la gouvernance dans ces pays est satisfaisante. Il y a des pays dans lesquels l'aide fonctionne beaucoup moins bien parce que la gouvernance dans ces pays n'est pas satisfaisante.
Évidemment, la question de la gouvernance est centrale et les gouvernants ont une responsabilité, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité de la part des économistes ? Dans les années 2000, l'outil phare du développement, c'était le microcrédit. Vous vous en souvenez, hein, c'était vraiment... D'ailleurs, 2005, ça avait été l'année du microcrédit décrété par les Nations Unies. Je propose d'écouter justement l'un des fers de lance de tout ça, qui était Mohamed Yunus, économiste bangladais, qui avait même eu le prix Nobel de la paix pour ça.
Je suis optimiste parce que je suis confiant en ce que l'être humain croit. Il y a un défaut dans la théorie, pas dans les personnalités. Nous avons créé un format qui interprète de façon extrêmement étroite l'esprit humain. On a dit que l'homme, l'être humain, dans le système capitaliste, sont mus par l'égoïsme, leur intérêt privé. Moi, je ne pense pas que l'être humain soit simplement dirigé par l'égoïsme. Si vous dites que l'être humain est à la fois égoïste et altruiste, ça change les choses complètement. Le capitalisme, aujourd'hui, nous a vidé de notre part altruiste. Il ne s'occupe que de la part égoïste. Et c'est la raison pour laquelle le système capitaliste ne fonctionne plus correctement. Il faut maintenant recréer véritablement un système où la cupidité ne sera pas le seul but de l'être humain.
Mohamed Yunus, donc en novembre 2017 sur France Inter. Je le disais, c'est l'un des hommes qui a fait la promotion de ce microcrédit. C'était vraiment un outil formidable, nous disait-on, pour aider les pays à se développer, pour aider les populations à sortir de la pauvreté. Or, précisément, je parlais tout à l'heure d'Esther Duflo. Ce qu'elle dit, elle, c'est que ses travaux montrent qu'en réalité, le microcrédit n'a pas permis de faire reculer significativement l'extrême pauvreté. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, est-ce que les économistes n'ont pas une responsabilité là-dedans ? C'est-à-dire, on nous dit pendant des années, le microcrédit, c'est formidable, il faut absolument l'utiliser, c'est le meilleur moyen de développer. Je dis pas vous en particulier, hein, vous sentez pas directement visé, vous avez compris. Mais on nous explique que c'est le meilleur outil pour permettre aux populations de se développer, et voilà que quand on regarde les choses, quand on a des modèles d'évaluation, on dit en fait non.
Bon, deux choses sur le microcrédit. Premièrement, je crois que dans le domaine économique, il faut faire une distinction entre ce qui est microéconomique et ce qui est macroéconomique. Et se dire que le microcrédit va aider à un développement macroéconomique, va accélérer la croissance d'un pays, ça c'est une illusion. Que ça permette de diminuer la pauvreté dans la population, peut-être. Mais que c'est un impact moteur sur la croissance économique d'un pays, c'est très douteux.
Mais je suis ravi de vous entendre le dire, mais c'est pas ce qu'on entendait il y a 10 ans.
Non, je suis pas d'accord. Ce qui a été dit il y a 10 ans, c'était le microcrédit est une façon de lutter contre la pauvreté, donc d'aider des populations pauvres. Ce qu'a fait Yunus, c'était exactement ça. Je pense pas que Yunus avait en tête que le Bangladesh, à cause de ça, allait croître beaucoup plus rapidement. D'ailleurs, en fait, il croit relativement rapidement. Mais ça n'est pas à cause du microcrédit. L'autre chose à propos du microcrédit, c'est qu'effectivement, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée de se dire, finalement, ces gens n'ont pas accès au crédit. S'ils pouvaient avoir suffisamment de moyens pour acheter quelques biens de production, que ce soit des vaches ou que ce soit des machines, ils vivront beaucoup mieux.
Sauf que Esther Duflo nous dit précisément ça. Ils ne l'utilisent pas pour s'acheter des vaches et pour monter une entreprise, mais ils l'utilisent pour s'acheter un frigidaire, une télévision et d'autres choses. Et qu'en réalité, ce sont des cartes de crédit pour les pauvres, les microcrédits. C'est sa thèse.
Ça n'est pas aussi simple. Il y a des choses de ce type-là, mais ça n'est pas aussi simple que ça. L'autre chose que je voulais dire, c'est que peut-être la grande révolution de l'économie, c'est l'évaluation.
Ouais.
Beaucoup de politiques économiques, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit ailleurs, sont décidées sur un raisonnement théorique. Maintenant, il faut vérifier que ce raisonnement tient la route quand il est appliqué. Et donc l'évaluation est quelque chose qui est nécessaire. Évaluer le microcrédit n'était pas du tout une chose simple. Il a fallu mettre au point des expérimentations qui nous ont permis de dire, finalement, non, ça n'est pas aussi efficace que ce que l'on pensait.
Oui, non, c'est même très difficile. Et même aujourd'hui, on n'a pas des outils parfaitement satisfaisants en la matière. Senabou Benga.
Sur les microcrédits.
Sur le microcrédit et plus généralement sur les outils qu'on a mis en place ces 10-15 dernières années, peut-être en se trompant, alors je ne sais pas à qui la faute, peu importe. Mais et d'ailleurs, on pourrait se demander si aujourd'hui, il n'y a pas le genre de même travers avec des outils en particulier qu'on utiliserait, mais qui en réalité ne se montreraient pas aussi efficaces qu'on l'espérerait.
Sur les microcrédits, déjà, je pense que ce qu'on oublie c'est très souvent, c'est que l'économie doit être au service de l'humain. C'est-à-dire que mettre en place ce type d'outils ou d'autres outils, sans réfléchir à la manière dont cet argent, dont ces revenus vont être utilisés et quel bien-être ces outils vont apporter aux populations qui en bénéficient constitue, selon moi, un problème. Je ne suis pas du tout une spécialiste de la question des microcrédits, mais je pense que même si effectivement c'était une bonne idée et ça reste une bonne idée, c'est un outil parmi d'autres. C'est-à-dire qu'encore une fois, on oublie la chose la plus importante, c'est que tous les outils qui sont mis en place et qui sont pensés, réfléchis, doivent avoir pour base et pour fondation le droit. Donc, typiquement sur le microcrédit, est-ce qu'on parle du droit au travail? Est-ce qu'on parle du droit à un salaire décent? Et quelles sont les implications de cet outil-là en particulier sur le reste des...
Et quand on est une ONG comme la vôtre, Senabou Benga, donc Human Dignity, comment est-ce qu'on fait justement pour promouvoir cette défense des droits économiques, sociaux et culturels? Et comment est-ce qu'on fait pour mettre en place des outils qui permettent justement le développement des populations très concrètement?
Très concrètement, Human Dignity déjà travaille avec les sociétés civiles. Donc nous, notre objectif n'est pas de nous substituer aux associations nationales. Mmh. La première chose qu'on ferait très concrètement, c'est sensibiliser les sociétés civiles, les associations de défense des droits humains sur le contenu des droits économiques, sociaux et culturels. Puisque nous partons du principe que ce sont ces associations au niveau national qui vont pouvoir sensibiliser leur population et leur expliquer ce que sont les droits. Donc nous organisons par exemple des formations sur le contenu. Que sont les droits économiques, sociaux et culturels? C'est la première question que vous m'avez posée. Revendiquer ces droits, ça implique d'abord de les comprendre. Donc voilà ce qu'on fait.
Et ensuite, comment est-ce qu'ils peuvent les utiliser, justement, pour revendiquer leur droit au travail, leur droit à la santé, très concrètement?
Je vais vous donner un exemple. On a fait ce rapport d'enquête en Côte d'Ivoire, un état des lieux du droit à la santé. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, on a formé nos partenaires, donc en l'occurrence le mouvement ivoirien des droits humains, sur le droit à la santé. Qu'est-ce que le droit à la santé? Ensuite, nous avons rédigé conjointement avec ce partenaire et Sciences Po Paris, un état des lieux du droit à la santé qui a permis une vraie discussion, un vrai dialogue entre société civile et ministère de la Santé sur les carences, les dysfonctionnements, les obstacles, mais aussi les progrès, qui a abouti à ce que le président de la République ivoirienne convoque un conseil présidentiel sur la santé pour justement essayer tous ensemble, société civile, ministère de la Santé, d'arriver à de meilleures infrastructures de santé.
Senabou Benga, François Bourguignon, je vous propose de retrouver un nouvel invité. On va s'intéresser à la question de l'austérité. On va voir comment l'austérité peut plomber la lutte contre la pauvreté. Ces dernières années, sous l'injonction du FMI ou bien de la Commission européenne, de nombreux pays à travers la planète ont dû mettre en place des politiques d'austérité ou d'ajustement structurel de leur économie. L'ONU s'est beaucoup inquiétée des conséquences de tels programmes. On va retrouver Juan Pablo Boaslavski, qui est expert indépendant auprès de l'ONU, chargé d'examiner les effets de la dette et autres obligations financières des États sur les droits de l'homme. On lui a demandé expliquer le lien justement entre politique d'austérité et atteinte potentielle aux droits fondamentaux. Il va nous parler notamment du cas de la Grèce, où désormais un habitant sur trois vit sous le seuil de pauvreté. La Grèce sur laquelle il a rendu un rapport très récemment. Et on lui a d'abord demandé, de manière générale, quel type de droits peuvent se retrouver impactés par une trop forte dette. Il est au micro de Mélanie Chalandon.
Nous partons du principe que tous les droits sont impactés par le problème de la dette. En même temps, on peut identifier des droits qui y sont liés ou sont affectés de manière plus directe et plus forte quand les États ont contracté une dette trop importante, puis ils donnent la priorité à un remboursement à 100% des créanciers aux dépens des droits à la population. Par exemple, en réduisant les salaires des fonctionnaires, en les licenciant, ou en réduisant les dépenses sociales qui sont utilisées dans les centres de soins pour les enfants, afin d'économiser de l'argent pour payer les créanciers. Et c'est là que le non-respect des droits, surtout sociaux et économiques, commence à se matérialiser. Par exemple, s'il y a des coupes sur le budget des hôpitaux, évidemment, ceci va entraîner une qualité moindre de prestations médicales et hospitalières. Et ceci de manière générale. On le voit dans la pratique. Ça coïncide avec l'augmentation des taux de mortalité infantile. Et comme souvent, cela agit sur la résurgence de maladies qui étaient supposées avoir disparu en raison d'une réduction de vaccination des enfants dans les pays en question. Et oui, on voit bien comment se multiplient ces violations de droits humains, précisément en raison du caractère interdépendant et indivisible de ces derniers. Un autre indicateur qui tend à se dégrader dans un contexte de crise économique et financière est le taux de suicide dans les pays. Il est très courant que dans un contexte de crise économique et financière, les gens se suicident davantage précisément à cause du stress et des privations matérielles.
Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple d'un pays ou d'une situation particulière qui vous paraît particulièrement préoccupante ?
Il y a beaucoup de pays. Je dirais qu'aujourd'hui, la majeure partie des pays sont engagés dans la mise en œuvre de politiques d'ajustement et de consolidation fiscale. L'un de ces pays, la Grèce, où j'ai achevé une mission il y a 2 ou 3 ans, et où le climat que j'ai rencontré au niveau social n'est pas très différent de celui qu'on rencontre souvent dans des contextes de crise financière et économique, c'est-à-dire une détérioration des indicateurs de développement humain, d'espérance de vie, de mortalité infantile, et qui sont ensuite corroborés par des histoires de vie au niveau microéconomique. Je suis allée dans des réunions où des personnes parlaient de cas de contamination intentionnelle au virus du sida. Une personne désespérée pouvait toucher un subside de l'État qui permettait d'assurer un revenu fixe à sa famille. Ceci donne le niveau de désespoir que les gens atteignent aujourd'hui dans un contexte de privation matérielle avec un État qui ne remplit pas ses obligations élémentaires, avec, en plus, des créanciers extérieurs qui demandent de plus en plus sur les ressources de l'État.
Alors, dans le cas de la crise de l'euro, précisément, en 2017, la Commission européenne avait établi un document avec une 20aine de principes pour veiller justement au respect des droits sociaux malgré les mesures d'austérité. Est-ce que ça vous paraît être une garantie suffisante, ce type d'initiative ?
Il y a 2 ans, j'ai achevé une mission officielle pour la Commission européenne à Bruxelles, afin de comprendre la situation en Europe quant aux politiques suggérées et mises en place par l'Union européenne dans un certain nombre de pays. Et l'une des principales recommandations que j'ai faites dans le rapport est que tant les États que la Commission de l'Union européenne devraient mettre en place des évaluations d'impact sur les droits humains. C'est-à-dire qu'en plus de la reconnaissance de ces droits, au niveau formel ou réglementaire, il est très important que les États fassent une évaluation ex ante de l'impact prévu de ces réformes sur le terrain, c'est-à-dire avant de mettre en place ces réformes économiques. Autrement dit, on va réduire les dépenses sociales dans certains domaines. Il faudrait essayer de prévoir quelle sera l'incidence sur l'égalité ou l'inégalité de genre. Cela aurait plus ou moins d'impact sur les femmes et ainsi pour tous les groupes qui sont dans une situation vulnérable, par exemple les enfants, filles ou garçons, les handicapés, les immigrants, les réfugiés, les minorités ethniques ou sexuelles. Ce travail d'évaluation préalable aux réformes quant à leur impact sur les groupes vulnérables est une obligation pour tous les États, pour l'Union européenne ainsi que pour toute organisation supranationale qui impulse des réformes économiques.
Vous parlez d'obligations, mais qui aujourd'hui se conforme réellement à ces obligations ? Qui met vraiment en place des politiques d'évaluation avant la prise de mesures d'austérité ?
C'est un exercice que l'on voit rarement en pratique. Il y a quelques années, l'Union européenne a adopté une évaluation de l'impact social en Grèce. Je l'avais à l'époque critiquée car elle ne prenait pas en compte le cadre réglementaire international ni la terminologie des droits humains. Et je pense que d'une certaine manière, ceci a amené le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à me solliciter formellement l'an dernier pour lui présenter des principes directeurs d'évaluation d'impact des réformes économiques sur les droits humains. Ça a été un processus sans document préalable, sur lequel j'ai travaillé de manière participative et collective ces dernières années. Et il y a une semaine, j'ai envoyé au Conseil ces principes directeurs qui vont être examinés et discutés le 28 février prochain.
À partir de mars, j'espère que la communauté internationale pourra compter sur ces principes directeurs qui ont été approuvés pour comprendre comment effectuer de la meilleure manière que soit ces évaluations d'impact des réformes économiques sur les droits humains.
Dans votre rapport en 2017, vous proposiez d'intégrer le droit du travail à l'intérieur des institutions financières. En quoi est-ce que cela permettrait d'améliorer le respect des droits de l'homme et en particulier des droits sociaux ?
Il y a des études empiriques qui démontrent que l'affaiblissement des droits du travail, qu'ils soient individuels, collectifs ou encore des organisations représentatives, se traduisent en général par des violations les plus importantes des droits humains. Ce qui signifie que plus les droits du travail sont faibles ou moins protégés, plus faibles et moins protégés sont les droits du peuple. C'est pourquoi un renforcement de la réglementation du travail devrait se traduire par un niveau plus important de la protection des droits humains. Et comme vous l'indiquez, c'est une des recommandations formulées auprès du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, qui, au lieu de solliciter une dérégulation et une érosion plus grande des droits du travail, devrait au contraire se concentrer sur la production de ces droits et augmenter, par exemple, le salaire minimum, car il est prouvé qu'offrir une augmentation de salaire minimum aux travailleurs produit un effet anticyclique, c'est-à-dire qu'il implique un rapport d'argent plus important par des dépenses accrues dans l'économie nationale. C'est un effet d'entraînement sur le marché intérieur et ceci crée un cercle vertueux pour l'économie nationale.
Un círculo virtuoso en la economía nacional.
Juan Pablo Boslavski, expert indépendant auprès de l'ONU, chargé d'examiner les effets de la dette des États sur les droits humains, au micro de Mélanie Chalandon. Senabou Benga, l'austérité fait reculer les droits humains. C'est pas vraiment une surprise.
Oui, non, pas du tout. Là, c'est effectivement les réformes politiques, les réformes économiques doivent, comme c'est si bien dit par l'expert indépendant, doivent premièrement évaluer la prise en compte ou non des droits économiques, sociaux et culturels. C'est la première étape.
C'est fait très rarement, trop rarement.
Trop rarement. Avant d'engager de nouvelles réformes, il nous faut évaluer en quoi est-ce que les politiques précédentes ont abouti ou n'ont pas abouti à une amélioration, à une amélioration de la jouissance de tous les droits humains par tous, pour tous et toutes.
François Bourguignon, ce sera le mot de la fin.
Oui, on ne peut pas nier que ces périodes d'ajustement et d'austérité sont difficiles. Elles sont en plus relativement inégalitaires. Elles sont plus difficiles pour les gens qui sont les moins favorisés que pour les gens les plus aisés. Cela étant, je pense qu'on a tout de même fait des progrès avec le temps. Je me souviens d'avoir écrit avec un collègue un ouvrage sur le coût social de l'ajustement en critiquant justement les programmes d'ajustement du Fonds monétaire international. Ça, c'était dans les années 90. Depuis, ce problème a été pris très sérieusement en compte par les gens du Fonds. Je dois aussi dire que de ce point de vue-là, l'arrivée de Christine Lagarde au Fonds monétaire a marqué une inflexion dans cette direction-là. Et il y a aujourd'hui, dans les modes d'intervention du Fonds monétaire ou dans les conseils qui sont donnés par le Fonds aux pays dans lesquels ils interviennent, toute une série de recommandations qui, justement, essayent de maintenir en place les acquis sociaux, essayent de sanctuariser un certain nombre de dépenses, notamment dans la santé, notamment dans l'éducation. Alors maintenant, on ne peut pas échapper complètement à l'austérité, mais je voudrais terminer simplement en disant que le problème de la dette, le problème de ces crises d'ajustement, c'est l'accumulation de la dette qui a eu lieu auparavant. Et de nouveau, là, on a un problème de gouvernance qui est tout à fait évident. Donc, critiquer les ajustements à la dette sans critiquer l'accumulation de la dette, il y a un problème.
Le poids de l'histoire est toujours là. Merci beaucoup François Bourguignon, Senabou Benga. Je rappellerai Senabou Benga, vous êtes directrice de Human Dignity, cette ONG française. François Bourguignon, la mondialisation de l'inégalité s'était paru au seuil. Merci infiniment à l'un et à l'autre. 11h53, minutes, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors vous le disiez hier, le populisme est en phase avec l'économie numérique, puisque cette dernière nous a habitués à obtenir la réalisation de tous nos désirs en un clic, et que c'est justement ce que nous proposent les leaders populistes.
Eh oui, les promoteurs du Brexit, Donald Trump, 5 étoiles en Italie, Bolsonaro au Brésil font un usage énorme des réseaux sociaux. Une des caractéristiques communes aux leaders populistes, c'est d'avoir contre eux les médias sérieux. Dans un climat de défiance générale envers ce qu'on appelle les élites, les populistes ont fait de cette hostilité un argument en leur faveur. Si les journalistes compétents, les personnalités dotées d'une réelle expertise, questionnent le sérieux économique de leur programme, c'est qu'ils appartiennent à cet establishment odieux et vendu à l'étranger. Cette élite haïe qui empêche le peuple de bénéficier des largesses qu'il mérite. Pour les populistes, il ne devrait y avoir aucun obstacle à la satisfaction d'exigences contradictoires entre elles. Par exemple, celle de baisser les taxes et les impôts tout en finançant davantage de services publics, de mieux garantir la sécurité tout en déréglementant à tout va, de financer de nouvelles dépenses à crédit tout en prétendant retrouver des marges de manœuvre budgétaires et la souveraineté financière, de faire baisser le prix des énergies tirées du pétrole tout en luttant contre la pollution de l'air. Alors lorsqu'on les met en face du caractère contradictoire de ces revendications, les populistes répliquent qu'on cherche à les embobiner, qu'il faut s'affranchir des règles, y compris de celles du sens commun, qui sont autant d'inventions de l'élite. Et quand des journalistes les traitent de xénophobes, eh ben c'est par complicité avec l'ONU, l'Union européenne, l'impérialisme, que sais-je, pour favoriser l'invasion de leur pays par des hordes d'immigrés. Je citais hier Jamie Bartlett, un spécialiste des réseaux sociaux pour Demos. « Dans une certaine mesure, écrit-il, eh bien nous sommes tous devenus populistes d'une certaine manière. Oui, même nous, qui tentons de rester raisonnables et qui nous croyons informés parce que nous lisons la presse sérieuse. »
Tous populistes, mais en quoi, Brice ?
Eh bien, tous populistes parce que sur les réseaux sociaux, nous avons tendance à chercher nos semblables, ceux qui partagent les mêmes évidences, des évidences qui ne le sont peut-être pas tant que ça. Et en ligne, au lieu d'écouter ceux qui ne pensent pas comme nous, nous les dénigrons, nous les contredisons brutalement, nous les bloquons sans écouter leurs ressentis. Et Bartlett pose la question, quelle est la dernière fois qu'une discussion en ligne vous a amené, vous, à changer votre opinion sur quelque chose ? Probablement jamais. Je parie que plus vous entendez vos opposants et plus vous divergez avec eux. Eh oui, dans la société de l'ère de la presse imprimée, il y avait au moins une tendance à ordonner les idées, à respecter les faits, un souci de cohérence intellectuelle. La logique qui préside aux plateformes est différente. On y est noyé d'avis discordants. Notre attention est captivée de tous les côtés. Ça n'a rien à voir avec la lecture d'un article de journal ou d'une tribune exposant des idées. Il faut réagir au quart de tour, avec ses tripes, plus qu'avec sa tête. Parmi les adversaires, on choisit de répliquer aux plus extrémistes, aux plus caricaturaux, afin de mieux pouvoir s'y opposer. Oui, c'est un autre monde. Alors on peut s'en désoler, comme autrefois Régis Debray se désolait que le plateau télévisé ait remplacé l'essai à la française, mais il faut faire avec. Parce que sans que nous y prenions garde, c'est la totalité du monde de la consommation d'informations qui est progressivement gagnée par cette logique. Voyez les émissions de débat. La nuance, la pensée articulée, l'examen équitable des positions, le respect des faits cèdent devant les passions du moment. Les provocateurs y ont la part belle, pas nécessairement parce que les organisateurs penchent de leur côté, même si ça peut arriver, mais parce que ce sont eux qui font l'audience, tout simplement. Leurs médisances, leurs injures ont de meilleures chances d'être reprises sur les réseaux sociaux et les chaînes d'information en continu, où tout se joue désormais. On n'en sort pas. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que ces nouvelles règles du jeu ne favorisent ni les partisans de la modération, ni les experts qualifiés, mais bien les militants les plus braillards, les plus violents, les plus méchants, les bouts de feu et les incendiaires. Je confesse une vive estime personnelle pour des personnalités qui, sur cette scène médiatique nouvelle que sont les réseaux sociaux, sont capables de ramasser en des formules brèves et percutantes des pensées profondes et même complexe. Je pense en particulier à Raphaël Antoven. Voilà bien l'avantage que confère la fréquentation des philosophes qui savaient s'exprimer en fragments et en aphorismes. Mais après tout, le haïku, malgré ou à cause de sa brièveté, offre aussi beaucoup à penser. Voilà ce dont nous devrions tous nous inspirer pour empêcher la dégradation du débat public qui a lieu sur Twitter et sur Facebook.
Et on n'a pas tous le talent de Raphaël qu'on salue. Merci beaucoup, cher Brice Couturier. On vous retrouve demain, évidemment, pour une nouvelle chronique dans un très court instant. C'est Olivia Gesbert et La Grande Table.